Eugénie Grandet, Honoré de Balzac. Ceci est un enregistrement de Christophe pour Audiocité. Eugénie Grandet, dixième partie. Malgré les souhaits fervents que Grandet faisait pour la santé de sa femme, dont la succession ouverte était une première mort pour lui, malgré la complaisance qu'il manifestait en toute occasion pour les moindres volontés de la mère et de la fille étonnées, malgré les soins les plus tendres prodigués par Eugénie, Madame Grandet marcha rapidement vers la mort. Chaque jour, elle s'affaiblissait et dépérissait comme dépérissent la plupart des femmes atteintes à cet âge par la maladie. Elle était frêle autant que les feuilles des arbres en automne. Les rayons du ciel la faisaient resplendir comme ces feuilles que le soleil traverse et dore. Ce fut une mort digne de sa vie, une mort toute chrétienne. N'est-ce pas dire sublime? Au mois d'octobre 1822, éclatèrent particulièrement ses vertus, sa patience d'ange et son amour pour sa fille. Elle s'éteignit sans avoir laissé échapper la moindre plainte. Agneau sans tache, elle allait au ciel et ne regrettait ici-bas que la douce compagne de sa froide vie à laquelle ses derniers regards semblaient prédire mille maux. Elle tremblait de laisser cette brebis, blanche comme elle, seule au milieu d'un monde égoïste qui voulait lui arracher sa toison, ses trésors. « Mon enfant, lui dit-elle avant d'expirer, il n'y a de bonheur que dans le ciel, tu le sauras un jour. » Le lendemain de cette mort, Eugénie trouva de nouveaux motifs de s'attacher à cette maison où elle était née, où elle avait tant souffert, où sa mère venait de mourir. Elle ne pouvait contempler la croisée et la chaise à patins dans la salle sans verser des pleurs. Elle crut avoir méconnu l'âme de son vieux père en se voyant l'objet de ses soins les plus tendres. Il venait lui donner le bras pour descendre au déjeuner. Il la regardait d'un œil presque bon pendant des heures entières. Enfin, il la couvait comme si elle eût été d'or. Le vieux tonnelier se ressemblait si peu à lui-même. Il tremblait tellement devant sa fille que Nanon et les Cruchotins, témoins de sa faiblesse, l'attribuèrent à son grand âge et craignirent ainsi quelque affaiblissement dans ses facultés. Mais, le jour où la famille prit le deuil, après le dîner auquel fut convié Maître Cruchot, qui seul connaissait le secret de son client, la conduite du bonhomme s'expliqua. « Ma chère enfant, dit-il à Eugénie lorsque la table fut ôtée et que les portes furent soigneusement closes. « Te voilà héritière de ta mère, et nous avons de petites affaires à régler entre nous deux. Pas vrai, Cruchot ?»«
Oui. »
« Est-il donc nécessaire de s'en occuper aujourd'hui, mon père ?»«
Oui, oui, fifille. Je ne pourrai pas durer dans l'incertitude où je suis. Je ne crois pas que tu veuilles me faire de la peine. »
« Oh, mon père!
Eh bien, il faut arranger tout cela ce soir.
Que voulez-vous donc que je fasse ?»«
Mais, fifille, ça ne me regarde pas. » »«
Dites-lui donc, Cruchot. » »«
Mademoiselle, monsieur votre père ne voudrait ni partager, ni vendre ses biens, ni payer des droits énormes pour l'argent comptant qu'il peut posséder. Donc, pour cela... il faudrait se dispenser de faire l'inventaire de toute la fortune qui aujourd'hui se trouve indivise entre vous et monsieur votre père.
Cruchot, êtes-vous bien sûr de cela pour en parler ainsi devant une enfant?
Laissez-moi dire, Grandet.
Oui, oui, mon ami. Ni vous, ni ma fille ne voulez me dépouiller. N'est-ce pas, fifille?
Mais, monsieur Cruchot, que faut-il que je fasse?
Demanda Eugénie impatientée.
« Eh bien, dit le notaire,
Il faudrait signer cet acte par lequel vous renonceriez à la succession de madame votre mère et laisseriez à votre père l'usufruit de tous les biens indivis entre vous et dont il vous assure la nue propriété.
« Je ne comprends rien à tout ce que vous me dites, » répondit Eugénie.
« Donnez-moi l'acte et montrez-moi la place où je dois signer. »
Le père Grandet regardait alternativement l'acte et sa fille et l'acte, en éprouvant de si violentes émotions qu'il s'essuya quelques gouttes de sueur venues de son front.
« Fifille, » dit-il, « au lieu de signer cet acte qui coûtera gros à faire enregistrer, si tu voulais renoncer purement et simplement à la succession de ta pauvre chère mère défunte et t'en rapporter à moi pour l'avenir, j'aimerais mieux ça. Je te ferai alors tous les mois payer une bonne grosse rente, 200 francs. Vois, tu pourrais payer autant de messes que tu voudrais à ceux pour lesquels tu en fais dire. Hein? 100 francs par mois, en livres.
Je ferai tout ce qu'il vous plaira, mon père.
Mademoiselle, dit le notaire, il est de mon devoir de vous faire observer que vous vous dépouillez.
Eh mon Dieu, dit-elle, qu'est-ce que cela me fait?
Tais-toi, Cruchot. C'est dit, c'est dit, s'écria Grandet en prenant la main de sa fille et y frappant avec la sienne.
Eugénie, tu ne te dédiras point. Tu es une honnête fille, hein?
Oh, mon père!
Il l'embrassa avec effusion, la serra dans ses bras à l'étouffer.
Va, mon enfant, tu donnes la vie à ton père,
mais tu lui rends ce qu'il t'a donné. Nous sommes quittes.
Voilà comment doivent se faire les affaires. La vie est une affaire. Je te bénis, tu es une vertueuse fille qui aime bien son papa. Fais ce que tu voudras maintenant.
À demain donc, Cruchot, dit-il en regardant le notaire épouvanté.
Vous verrez à bien préparer l'acte de renonciation au greffe du tribunal.
Le lendemain, vers midi, fut signée la déclaration par laquelle Eugénie accomplissait elle-même sa spoliation. Cependant, malgré sa parole, à la fin de la première année, le vieux tonnelier n'avait pas encore donné un sou des 100 francs par mois si solennellement promis à sa fille. Aussi, quand Eugénie lui en parla plaisamment, ne put-il s'empêcher de rougir. Il monta vivement à son cabinet, revint et lui présenta environ le tiers des bijoux qu'il avait pris à son neveu.
« Tiens, petite, » dit-il d'un accent plein d'ironie, « veux-tu ça pour tes 1200 francs ?»«
Oh, mon père, vrai, vous me les donnez-vous ?»«
Je t'en rendrai autant l'année prochaine, » dit-il en les lui jetant dans son tablier. « Ainsi, en peu de temps, tu auras toutes ces breloques, »
ajouta-t-il en se frottant les mains, heureux de pouvoir spéculer sur le sentiment de sa fille.
Néanmoins, le vieillard, quoique robuste encore, sentit la nécessité d'initier sa fille au secret du ménage. Pendant 2 années consécutives, il lui fit ordonner en sa présence le menu de la maison et recevoir les redevances. Il lui apprit lentement et successivement les noms, la contenance de ses clos et de ses fermes. Vers la 3e année, il l'avait si bien accoutumé à toutes ses façons d'avarice, il les avait si véritablement tournées chez elle en habitude, qu'il lui laissa sans crainte les clés de la dépense et l'institua la maîtresse au logis.
5 ans se passèrent sans qu'aucun événement marquât dans l'existence monotone d'Eugénie et de son père. Ce fut les mêmes actes constamment accomplis avec la régularité chronométrique des mouvements de la vieille pendule. La profonde mélancolie de Mademoiselle Grandet n'était un secret pour personne, mais si chacun put en ressentir la cause, jamais un mot prononcé par elle ne justifia les soupçons que toutes les sociétés de Saumur formaient sur l'état du cœur de la riche héritière. Sa seule compagnie se composait des trois Cruchot et de quelques-uns de leurs amis qu'ils avaient insensiblement introduits au logis. Ils lui avaient appris à jouer au whist et venaient tous les soirs faire la partie. Dans l'année 1827, son père, sentant le poids des infirmités, fut forcé de l'initier au secret de sa fortune territoriale et lui disait, en cas de difficulté, de s'en rapporter à Cruchot le notaire dont la probité lui était connue. Puis, vers la fin de cette année, le bonhomme fut enfin, à l'âge de 82 ans, pris par une paralysie qui fit de rapides progrès. Grandet fut condamné par M. Bergerin. En pensant qu'elle allait bientôt se trouver seule dans le monde, Eugénie se tint, pour ainsi dire, plus près de son père, et serra plus fortement ce dernier anneau d'affection. Dans sa pensée comme dans celle de toutes les femmes aimantes, l'amour était le monde entier, et Charles n'était pas là. Elle fut sublime de soins et d'attention pour son vieux père, dont les facultés commençaient à baisser, mais dont l'avarice se soutenait instinctivement. Aussi la mort de cet homme ne contrasta-t-elle point avec sa vie. Dès le matin, il se faisait rouler entre la cheminée de sa chambre et la porte de son cabinet, sans doute plein d'or. Il restait là sans mouvement, mais il regardait tour à tour avec anxiété ceux qui venaient le voir et la porte doublée de fer. Il se faisait rendre compte des moindres bruits qu'il entendait, et, au grand étonnement du notaire, il entendait le bâillement de son chien dans la cour. Il se réveillait de sa stupeur apparente au jour et à l'heure où il fallait recevoir des fermages, faire des comptes avec les closiers ou donner des quittances. Il agitait alors son fauteuil à roulettes jusqu'à ce qu'il se trouvât en face de la porte de son cabinet. Il le faisait ouvrir par sa fille et veillait à ce qu'elle plaçât en secret elle-même les sacs d'argent les uns sur les autres, à ce qu'elle ferma la porte. Puis il revenait à sa place silencieusement, aussitôt qu'elle lui avait rendu la précieuse clé, toujours placée dans la poche de son gilet, et qu'il tâtait de temps en temps. D'ailleurs, son vieil ami le notaire, sentant que la riche héritière épouserait nécessairement son neveu le président, si Charles Grandet ne revenait pas, redoubla de soins et d'attention. Il venait tous les jours se mettre aux ordres de Grandet, allait à son commandement à Froidfond, aux terres, aux prés, aux vignes, vendait les récoltes et transmutait tout en or et en argent qui venait se réunir secrètement aux sacs empilés dans le cabinet. Enfin arrivèrent les jours d'agonie pendant lesquels la forte charpente du bonhomme fut aux prises avec la destruction. Il voulut rester assis au coin de son feu devant la porte de son cabinet. Il attirait à lui et roulait toutes les couvertures que l'on mettait sur lui et disait à Nanon « Serre, serre ça pour qu'on ne me vole pas !» Quand il pouvait ouvrir les yeux, où toute sa vie s'était réfugiée, il les tournait aussitôt vers la porte du cabinet où gisaient ses trésors en disant à sa fille « Y sont-ils ? Y sont-ils ?» d'un son de voix qui dénotait une sorte de peur panique. « Oui, mon père, veille alors, mets de l'or devant moi !» Eugénie lui étalait des louis sur une table et il demeurait des heures entières, les yeux attachés sur les louis, comme un enfant qui, au moment où il commence à voir, contemple stupidement le même objet. Et, comme à un enfant, il lui échappait un sourire pénible. « Ça me réchauffe !» disait-il quelquefois en laissant paraître sur sa figure une expression de béatitude. Lorsque le curé de la paroisse vint l'administrer, ses yeux, morts en apparence depuis quelques heures, se ranimèrent à la vue de la croix, des chandeliers, du bénitier d'argent qu'il regarda fixement, et sa loupe remua pour la dernière fois. Lorsque le prêtre lui approcha des lèvres le crucifix en vermeil pour lui faire baiser le Christ, il fit un épouvantable geste pour le saisir, et ce dernier effort lui coûta la vie. Il appela Eugénie, qu'il ne voyait pas, quoiqu'elle fût agenouillée devant lui, et qu'elle baigna de ses larmes une main déjà froide. « Mon père, bénissez-moi, » demanda-t-elle.
« Aie bien soin de tout. Tu me rendras compte de ça là-bas, »
dit-il en prouvant par cette dernière parole que le christianisme doit être la religion des avares. Eugénie Grandet se trouva donc seule au monde dans cette maison, n'ayant que Nanon à qui elle put jeter un regard avec la certitude d'être entendue et comprise. Nanon, le seul être qui l'aima pour elle et avec qui elle put causer de ses chagrins. La grande Nanon était une providence pour Eugénie. Aussi ne fut-elle plus une servante, mais une humble amie. Après la mort de son père, Eugénie apprit par maître Cruchot qu'elle possédait 300 000 livres de rente en bienfonds dans l'arrondissement de Saumur, 6 000 000 placés en 3% à 60 francs, et il valait alors 77 francs, plus 2 000 000 en or et 100 000 francs en écus, sans compter les arrérages à recevoir. L'estimation totale de ses biens allait à 17 000 000.
« Où donc est mon cousin ?» se dit-elle.
Le jour où maître Cruchot remit à sa cliente l'état de la succession, devenue claire et limpide, Eugénie resta seule avec Nanon, assise l'une et l'autre de chaque côté de la cheminée, de cette salle si vide où tout était souvenir, depuis la chaise à patins sur laquelle s'asseyait sa mère, jusqu'au verre dans lequel avait bu son cousin.
« Nanon, nous sommes seuls. »
Et oui, mamselle, et si je savais où il est, ce mignon, j'irais de mon pied le chercher. »
Il y a la mer entre nous, dit-elle.
Pendant que la pauvre héritière pleurait ainsi en compagnie de sa vieille servante, dans cette froide et obscure maison qui, pour elle, composait tout l'univers, il n'était question de Nantes à Orléans que des 17 000 000 de mademoiselle Grandet. Un de ses premiers actes fut de donner 1 200 francs de rente viagère à Nanon qui, possédant déjà 600 autres francs, devint un riche parti. En moins d'un mois, elle passa de l'état de fille à celui de femme sous la protection d'Antoine Cornoyer, qui fut nommé garde général des terres et propriétés de mademoiselle Grandet. Madame Cornoyer eut sur ses contemporaines un immense avantage. Quoiqu'elle eût 59 ans, elle ne paraissait pas en avoir plus de 40. Ses gros traits avaient résisté aux attaques du temps. Grâce au régime de sa vie monastique, elle narguait la vieillesse par un teint coloré, par une santé de fer. Peut-être n'avait-elle jamais été aussi bien qu'elle le fut au jour de son mariage. Elle eut les bénéfices de sa laideur, et apparut grosse, grasse, forte, ayant sur sa figure indestructible un air de bonheur qui fit envier par quelques personnes le sort de Cornoyer.
« Elle est bon teint, » disait le drapier. « Elle est capable de faire des enfants, » dit le marchand de sel. Elle s'est conservée comme dans de la saumure, sous votre respect.
Elle est riche et le gars Cornoyer fait un bon coup, disait un autre voisin.
En sortant du vieux logis, Nanon, qui était aimée de tout le voisinage, ne reçut que des compliments en descendant la rue tortueuse pour se rendre à la paroisse. Pour présent de noces,
Eugénie lui donna 3 douzaines de couverts. Cornoiller, surpris d'une telle magnificence, parlait de sa maîtresse les larmes aux yeux. Il se serait fait hacher pour elle. Devenue la femme de confiance d'Eugénie, Madame Cornoiller eut désormais un bonheur égal pour elle à celui de posséder un mari. Elle avait enfin une dépense à ouvrir, à fermer, des provisions à donner le matin, comme faisait son défunt maître. Puis, elle eut à régir 2 domestiques, une cuisinière et une femme de chambre chargée de raccommoder le linge de la maison, de faire les robes de mademoiselle. Cornoiller cumula les fonctions de garde et de régisseur. Il est inutile de dire que la cuisinière et la femme de chambre choisies par Nanon étaient de véritables perles. Mademoiselle Grandet eut ainsi 4 serviteurs dont le dévouement était sans bornes. Les fermiers ne s'aperçurent donc pas de la mort du bonhomme, tant il avait sévèrement établi les usages et les coutumes de son administration, qui fut soigneusement continuée par Monsieur et Madame Cornoiller. Fin de la 10e partie.